Bernard Dimet n'est pas mort le 10 mai. On aurait cru qu'il l'avait fait exprès. Les morts le 1er juillet au matin. Et rudement
cette rose d'églantine qui pleure sous la main câline et qui rosit d'un peu de sang le blé complice de Saint-Jean, de ses yeux qui cherchent fortune dans le ciel.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
C'est bien, les muses s'amusent. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais ce soir avec de la police. Pardon, de la police sur Radio Libertaire.
Oui, je me permets d'interrompre notre animateur en chef. Je pense que c'est la première fois qu'un animateur de Radio Libertaire a emmené un autre animateur de Radio Libertaire au poste. Et quand je dis bien au poste, je ne parle pas du poste de radio, non. Je parle bien du poste de police. Et la suite est assez terrible.
En effet, j'ai emmené mon très cher ami Nicolas au musée de la police, 4 rue des Carmes, si je me souviens bien, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, enfin l'une des deux rues, dans le 5e arrondissement, dans un immeuble particulièrement laid, qui abrite le commissariat central du 5e arrondissement. Et au 3e étage de cet immeuble très vilain d'aspect, il y a ce fameux musée de la police. Je me disais qu'il était quand même absolument indispensable qu'une émission de Radio Libertaire consacrée, entre autres choses, au musée, aille visiter le musée de la police. Donc nous y sommes allés, Et nous avons enregistré, mais enregistré avec difficulté, car vous pouvez aisément imaginer qu'il était un petit peu compliqué de dire à voix très haute « Bonjour, vous êtes sur Radio Liberté à 89.4 !» Donc l'enregistrement a connu quelques problèmes, et nous avons réenregistré la majeure partie de l'émission en studio, ici, à Radio Libertaire. Donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps, il y a des espèces de différences sonores un petit peu violentes, c'est dû à ce nomadisme phonique et radiophonique. Alors, le musée de la police, c'est quoi ? C'est la préfecture de police qui a décidé que sa mémoire était suffisamment honorable pour être honorée. C'était une idée du préfet Louis Lépine, dont on reparlera un peu plus tard, parce que Louis Lépine a eu tout un tas d'idées variées, pas nécessairement toujours les meilleures, mais bon, il en a eu beaucoup. Et ce musée présente donc ses collections, amassées déjà avant Louis Lépine, mais jamais présentées, et depuis présentées. Alors il a un gros problème, ce musée, il a peint un rond. C'est la raison pour laquelle il est dans cet immeuble absolument ignoble. Il en occupe quand même tout le troisième étage, comme je viens de le dire. Et il est attendrissant parce que, quand, comme moi, on est un guide professionnel des musées de Paris et qu'on se balade dans des musées absolument sublimes, et qu'on va ensuite dans cette... je vais pas l'appeler un capharnaüm parce qu'ils ont quand même fait un effort, mais c'est quand même tout petit, on sent qu'il y a très peu de moyens. Alors quand vous irez le visiter, je recommande vivement la visite, c'est gratuit, mais il faudra quand même passer par le commissariat. Donc il faudra vous présenter aux gens du commissariat, qui comme vous le savez sont souvent stressés, puis vous direz que vous allez au musée. Normalement, l'entrée sera gratuite, et une fois que vous allez entrer dans ce musée, eh bien vous irez à gauche. Je sais, ce n'est pas normalement le côté politique vers lequel se dirige la police, mais ils n'y ont pas pensé assez bien. Vous devez commencer la visite par la gauche. Et quand on commence cette visite du musée de la police, on s'aperçoit de quelque chose. Avant Louis XIV, il n'y a pas de force de police à Paris dédié uniquement au maintien de l'ordre ou, bien entendu, au maintien du désordre social selon le point de vue que l'on adopte. Il y a bien des forces répressives qui sont appelées le guet et dont les soldats sont en général appelés tout simplement des archers. Mais ce sont bien des soldats. Donc en cas de guerre, éventuellement, ils iront combattre avec le reste des forces armées. Et leurs pouvoirs de police ne sont pas particulièrement différents des pouvoirs de haute et basse justice des différents seigneurs féodaux de la France de l'époque. On aura bien, dans le reste de la France, déjà une espèce de corps appelé la gendarmerie, mais dont le rôle de maintien de l'ordre n'est pas encore extrêmement bien déterminé. Alors, quand est-ce que ça va commencer qu'il y ait une force de police ou une structure policière qui va devenir plus tard la préfecture de police ? Eh bien, ça commence avec quelqu'un qui aimait beaucoup l'ordre. Nicolas, vois-tu de qui je veux parler ?
Un certain Fouché, je crois.
Ah non, non, là tu es un
peu avant. Je suis trop loin dans le
temps.
Oui, tu es
allé
trop
loin. Non, trop près. Trop près.
Trop près de nous.
Il était petit, mais il était désagréable, quoique, avec un grand bon goût esthétique.
Un Louis.
Oui, mais lequel ?
Lequel au hasard, dans les années 13, 14, 15, 14, 14, 14, bien. Ah, mais c'est le grand, quoi, le grand, le vrai Louis.
Le grand petit Louis. Ah, oui, le petit Louis le Grand, enfin bref. Oui. Ah, oui, pour les lycées, c'est le Louis le Grand. Donc, Louis XIV, qui veut que le royaume lui obéisse au doigt et à l'œil, et qui s'aperçoit qu'à Paris, il y a des endroits très désagréables, dont Victor Hugo va parler plus tard dans son chef-d'œuvre, Nicolas, appelé...
Les Misérables.
Non, mais je savais bien, Nicolas, non seulement il fait la technique, mais en plus, il assure l'érudition littéraire de l'émission. Et donc... Les cours des miracles, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est tout simplement des lieux où à la fois les malandrins, les marginaux, les clochards, les mendiants peuvent...
Les Misérables, c'est plus dans Notre-Dame de Paris.
Les Misérables parlent beaucoup de Notre-Dame de Paris.
Les cours des miracles, pardon.
Les cours des miracles, oui.
C'est plus dans Notre-Dame de Paris.
Ah,
non ?
Oui, c'est dans Notre-Dame de Paris.
J'ai dit Les Misérables.
C'est bien.
Un peu plus contemporain.
Honte à nous. Et les cours, pourquoi est-ce que ça s'appelle les cours des miracles? C'est très simple. Vous aviez beaucoup de mendiants, des mendiants qui souvent avaient d'excellentes raisons de mendier, et puis des mendiants un petit peu tricheurs, qui pour déclencher les actes de pitié, eh bien, se faisaient des fausses plaies ou des faux bubons, enfin, tout un tas de choses apparemment abominables. Et le soir, quand ils revenaient dans ces lieux où ils étaient entre eux, eh bien, ils étaient soudainement guéris, puisque leurs fausses plaies disparaissaient, puisque tout d'un coup, ils retrouvaient l'usage de leurs jambes ou de leurs bras. C'est quelque chose que les Parisiens peuvent encore aujourd'hui constater. Il y a par exemple un monsieur, ça fait au moins 20 ans que je le vois près des musées, qui prétend trembler de tout son corps, mais je l'ai vu traverser les ponts d'un pas suffisamment vif pour me dépasser. Bon. Et ça déplaît considérablement à Louis XIV, les cours des miracles. Et il va être tellement fier du fait qu'il les a fait nettoyer que dans la Galerie des Glaces, eh bien, cela fait partie des actes héroïques et immortels que le plafond de la Galerie des Glaces, peint par Charles Lebrun, célèbre. Pour en revenir à notre musée, cela signifie que Louis XIV va créer ce qu'on appelle le poste de lieutenant général de la police. Et c'est effectivement quelque chose que l'on voit tout de suite après ces mannequins dressés dans un costume d'archer tout à fait discutable, parce que d'abord ces costumes, ils ont beaucoup changé, et moi il me semble un petit peu trop simple pour ce que ça devait être. Néanmoins, on a donc un premier donc lieutenant général de police qui est chargé spécifiquement du maintien de l'ordre dans Paris. Et le premier, qui est donc honoré dans ce musée, c'est Gabriel Nicolas de la Reynie. Et tout fièrement, le musée a une espèce de panneau avec la liste intégrale de ses lieutenants généraux de la police jusqu'à la Révolution. Et puis, à la Révolution, il va évidemment se passer beaucoup de choses. En particulier, va y avoir des problèmes avec la garde nationale, qui va aller dans un sens, puis dans un autre, politiquement. Côté répression, souvenons-nous que l'un des premiers actes de la Révolution, et dont le musée n'ose pas trop mentionner l'existence, c'est la répression des ouvriers de la manufacture de papier peint de Monsieur Réveillon. Monsieur Réveillon avait eu l'idée excellente de diminuer les salaires de ses ouvriers des deux tiers. Voilà une mesure d'économie.
Sage mesure pour un entrepreneur.
Ah, exactement. Et les ouvriers, curieusement, ces ingrats, ont protesté. Donc on a envoyé non pas tant des forces de police que tout simplement des forces militaires. Et si je ne m'abuse, il y a eu quelque chose comme à peu près 300 morts des ouvriers de cette manufacture. Donc la préfecture de police en tant que telle, quand est-ce qu'elle commence? Eh bien, c'est très simple, c'est avec Napoléon Ier. Le premier consul, Bonaparte.
Se structure, plus il va structurer la police aussi.
C'est bien évidemment la nécessité qui se pose, d'autant que Paris, la population de Paris explose. Au XIXe siècle, on va avoir tout d'un coup 1 million d'habitants, puis 2 millions d'habitants. Or, cette explosion de la population, elle est due principalement à l'arrivée de gens très pauvres, donc ils vont au XIXe siècle être les ouvriers, des ouvriers pas nécessairement contents, des ouvriers pas nécessairement au travail, des ouvriers qui, pour se consoler des malheurs qu'on leur inflige, boivent beaucoup. Et puis, il y aura leurs femmes, leurs épouses, leurs filles, leurs concubines et toutes ces demoiselles indépendantes. Paris va devenir une capitale mondiale de la prostitution et il va falloir gérer, si j'ose dire, tout ça. Donc, notre Napoléon Bonaparte, quand il est premier consul, décide, dans son grand mouvement de réforme de l'administration, de créer une préfecture de police dont le premier titulaire sera Monsieur le Comte Dubois. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu amusant que souligne d'ailleurs le musée, mais pas assez, comme d'habitude, c'est que Napoléon veut un préfet de police de Paris, mais Paris est déjà un monstre en France. Alors, c'est le même problème qu'il y a eu avec un maire de Paris. Quelqu'un qui est maire de Paris a immédiatement un poids énorme dans la politique française. Souvenons-nous que Chirac était maire de Paris avant de devenir président de la République. Et donc, en réalité, Napoléon voulait qu'il y ait un préfet de police pour faire en sorte que Fouché, son ministre de la police, n'ait quand même pas trop de pouvoir et qu'il y ait quand même d'autres gens qui surveillent Fouché. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans ce musée, nous avons cette petite gravure sur laquelle tu t'étais penché, Nicolas. Et Monsieur Fouché, son aspect physique, t'avait fait quel effet ?
L'effet de quelqu'un qu'on n'a pas envie de côtoyer de trop près. Et je dirais même que si on pouvait, sa vie durant, éviter de le rencontrer, on s'en trouverait sans doute d'autant mieux.
Alors, soyons précis. Quoi donc, soit dans le physique, soit dans l'expression de Fouché, afin que tu aurais renoncé à son amitié ?
Un sentiment, quelque chose d'un peu désagréable, je dirais.
Désagréable comment ? Je vais le pousser dans ses derniers retranchements.
Après, c'est toujours délicat d'attaquer des personnes sur leur physique. Il n'attire pas la sympathie.
Peut-être un côté glaçon, non ?
Oui, quelque chose comme ça.
Alors effectivement, ça se voit dans ce portrait, où bien entendu, selon les modes de l'époque, on voit tout d'abord un costume magnifique, et puis un col luxueusement brodé. Et au-dessus de ce col luxueusement brodé, que voyons-nous ? Eh bien, nous voyons un physique avec des yeux presque bridés. Mais bridés, non pas génétiquement, mais bridés parce qu'on sent bien que le gars regarde avec méfiance et le reste du visage est complètement fermé. Alors, c'était le cas encore pire de Talleyrand. Talleyrand était notoire pour avoir un visage absolument impossible à décrypter. C'était bien entendu l'une des qualités d'un diplomate. Et il y a cette phrase célèbre de Chateaubriand qui, au moment de la Restauration, quand tant Fouché que Talleyrand sauvent leur tête en permettant à Louis XVIII d'arriver en France de manière plus ou moins pacifique, eh bien Chateaubriand les voit sortir de l'endroit où était le roi et il dit « J'ai vu sortir le vice et le crime bras dessus, bras dessous ». Le crime étant probablement Fouché, et le vice étant très certainement Talleyrand. Pour en revenir à notre musée, nous avons également, un petit peu avant la gravure de Fouché, nous avons une espèce de... quelque chose qui ressemble à une affiche avec une très belle typographie. Eh bien, c'est un modèle de la typographie qui a été utilisée pendant tout l'Ancien Régime pour les noms des rues. Alors, les plaques que nous connaissons maintenant, les plaques à la bordure bleue, à la bordure verte et au fond bleu que nous avons dans les rues de Paris, ça c'est quelque chose de la fin du 19e siècle. Avant cela, eh bien, on gravait les noms des rues sur les pierres de taille au coin des immeubles et on a donc là le modèle. Alors, vous verrez quand vous arriverez dans ce musée que, oserais-je le dire pour un musée de la police ? C'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Souvent, les musées essayent quand même d'avoir un parcours chronologique relativement clair. Mais là, comme l'espace l'aurait compté, si on n'y fait pas très attention, eh bien, on perd très vite le fil chronologique, et on saute d'une période à une autre. Alors, on va essayer quand même là de se tenir à quelque chose d'à peu près compréhensible. Et Nicolas, si tu te souviens, je t'avais emmené devant une petite vitrine où il y avait un nom que tu as remarqué, c'était Monsieur Vidocq.
Un personnage assez intéressant, plus sympathique que un de ses prédécesseurs que nous évoquions, certains Fouché, mais habile manœuvrier, on pourrait dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son
habilissime manœuvrier. Alors, qui est Vidocq ? Vidocq, au début, quand il est tout jeune, c'est un mauvais garçon, c'est un malandrin, c'est un petit escroc, fait des tas de choses répréhensibles. Il est arrêté. Et la perspective de passer le reste de sa vie au bagne l'inquiète beaucoup. Donc il dit au policier, écoutez, ne m'envoyez pas au bagne parce que je connais beaucoup de monde. Et si vous me laissez, en tout cas en liberté, ne serait-ce qu'en liberté surveillée, eh bien je vais pouvoir vous amener beaucoup de gens dans vos filets. Et comme il est beau parleur et intelligent, les policiers se disent, tentons le coup. Et Vidocq commence donc sa carrière comme indicateur, comme mouchard. Ça marche du feu de Dieu. Tellement que d'indicateur, eh bien, il est recruté dans la police, dont il va gravir les échelons à la vitesse grand V. Et il va même atteindre le sommet de la carrière, puisque Nicolas, te souviens-tu de son titre exact ?
Je ne saurais pas dire son titre exact. Je ne sais pas lire sur les lèvres.
Chef de la sûreté.
Chef de la sûreté, absolument.
Chef de la sûreté.
Et donc c'est un petit voyou qui devient chef de la police.
C'est un petit voyou qui devient un grand flic.
Il n'y a jamais eu d'autres...
Oui, alors là, tu t'avances.
Occurrence, alors, ça.
Je pense qu'en particulier, sous la quasi-totalité des dictatures...
Ah, pas en France.
En France, je pense que le cas est peut-être unique, effectivement. Mais effectivement, dans les dictatures dans le monde, je crois que le cas est extrêmement fréquent. En tout cas, donc, il devient chef de la sûreté, un poste dans lequel il connaît de très nombreux succès. Seulement, voilà, les régimes politiques changent. Et quand on est un très haut fonctionnaire, eh bien, éventuellement, on est viré parce qu'on ne correspond plus à l'orientation politique nouvelle. Et c'est ce qui va se passer quand Louis-Philippe va arriver au pouvoir. Un beau jour, il va décider que Vidocq, ça n'est pas l'homme qu'il lui faut. Et Vidocq est donc viré. Alors, que va faire Vidocq pour continuer à gagner sa vie ? Il invente... Nicolas, je te tends la perche.
Il invente le métier de détective privé.
Magnifique. C'est le premier détective privé, en tout cas officiel, de l'histoire. Donc il ouvre un bureau dont on connaît encore son domicile, qui est dans la galerie Vivienne, juste à côté du Palais Royal. Et ce bureau d'enquête, évidemment, est très prisé, puisque fatalement, quelqu'un qui est un ancien voyou, deux, ex-chef de la sûreté... Franchement, comme détective privé...
Puis on peut imaginer qu'il est parti avec quelques dossiers, quelques relations fiables.
Certainement beaucoup de choses. Et je dois avouer, petite digression, que dans mon métier de guide touristique, il m'est arrivé un jour, à ma très désagréable surprise, de devoir balader le propriétaire d'une mine de charbon dans les Appalaches, qui était probablement un affreux mafieux, et qui était quelqu'un de complètement paranoïaque, puisqu'il avait deux gardes du corps, dont l'un d'entre eux avait été l'ancien chef de la police de la ville de Philadelphie.
bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, dans les Mules s'amusent. Et aujourd'hui, Jean-Manuel nous emmène. Jean-Manuel m'a mis les monottes, les bracelets, et nous sommes dans le musée de la police. Voilà, je suis la visite, un peu malgré moi. Et là, il m'amène à proximité de la guillotine.
Alors, la guillotine. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce musée, c'est que on nous montre une quasi-guillotine, quasiment grandeur nature. On nous montre une petite maquette très précise d'une guillotine. Et on nous montre également un vrai couperet de guillotine qui a vraiment servi à tuer des gens. Et sur la guillotine, il y a beaucoup de choses à dire. Et la première chose à dire, et j'ai très souvent ça dans mon métier de guide, quand les gens me disent « Ah, la Révolution française, quelle période horrible, qui a fait couler le sang !» Je rappelle aux gens que les rois de France, puis tous les autres rois d'Europe, avaient des manières bien plus horribles de tuer les gens.
C'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens que tu m'as raconté cette histoire, c'est que le monsieur, donc le docteur Guillotin, oui, qui a donné son nom et qui a inventé la guillotine, a conçu cet objet d'une certaine façon d'un souci humanitaire.
Totalement. J'en veux, pour exemple, l'objet qui se trouve entre la grande maquette et la petite maquette. Tu vois cet objet-là, qui on dirait une espèce de petite grue avec des marches. Alors ça, c'est pour faire subir le supplice de l'estrapade. Qu'est-ce que c'est que l'estrapade? Si vous étiez un soldat déserteur et qu'on vous ait rattrapé, eh bien, on vous faisait subir ce supplice qui était très simple. On vous liait les bras, les mains dans le dos. On liait vos mains à vos pieds. Ça faisait une espèce de colis. On attachait ce colis que vous étiez devenu à une petite grue. Et le câble qui vous tenait, la longueur de ce câble, était calculée de façon que, quand on relâchait le câble, vous étiez en haut de la grue, on relâchait le câble, vous tombiez, mais au lieu de vous écraser contre le sol, le câble était suffisamment court pour vous empêcher de toucher le sol à, mettons, 20 cm d'intervalle. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que l'articulation de vos épaules et l'articulation de vos hanches, eh bien, elle en était brisée, quasiment arrachée. Ça devait être une douleur insupportable. Est-ce que c'était suffisant pour vous tuer? Non. Donc, on vous rehissait en haut de la grue et on vous laissait tomber une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'on ne vous entende plus crier. Et la douleur étant tellement horrible, si on ne vous entendait plus crier, c'est que vous étiez mort. Ça prenait combien de temps pour mourir de cette manière?
Un certain temps.
Un certain temps. Bon, également, le musée nous montre des gravures tout aussi peu réjouissantes de ce qu'on faisait aux assassins, aux régicides, voire aux régicides qui avaient échoué à tuer des rois. On connaît le cas de Damien qui n'a pas tué Louis XV, mais on lui a quand même appliqué la peine des régicides. Alors là, c'est charmant aussi. On prend la main, le poing qui avait tenu l'arme, on ouvre la main, on y verse un mélange de plomb fondu et de soufre pour que ça colle. Hein, charmant. Puis, une fois que, au bout d'une petite 20 minutes, où vous avez souffert le martyr, on vous tranche la main d'un coup de hache, et puis on attache chacun de vos quatre membres à un cheval, et on vous écartèle. Alors, il se trouve que dans le cas de Damien était tellement fort qu'il a fallu qu'un officier arrive avec un sabre pour trancher les épaules et les cuisses de Damien. Donc des manières de tuer absolument horribles. Donc la guillotine, c'était bien, comme tu dis, un objet humanitaire qui vous tuait absolument rapidement et, on peut le présumer, sans douleur. Le docteur Guillotin a d'ailleurs été très triste qu'on appelle cet objet la guillotine. Ça l'embêtait évidemment beaucoup. Et quand on va à Paris au pub Saint-Germain qui est dans la cour Saint-André, eh bien, je raconte toujours que dans les caves de ce pub Saint-Germain, il y a quelques décennies, ils faisaient des travaux de rénovation, puis d'un coup, on tombe sur une centaine de squelettes. Ah oui, des squelettes de moutons. Eh bien, c'était le menuisier allemand, Monsieur Tobias Schmidt, qui, recruté par le docteur Louis, un collègue du docteur Guillotin, dans le but de perfectionner la guillotine de façon à ce que, justement, elle marche absolument bien et sans jamais échouer, eh bien, pour tester la guillotine, on a eu l'humanité de ne pas trancher le cou d'une centaine de personnes, mais seulement d'une centaine de moutons. Alors je sais, les antispécistes vont dire, oui mais ces pauvres moutons, bon, ben, on les aurait tués de toute façon chez le boucher. Enfin, on peut en tout cas le présumer. Et puis, encore une chose sur la guillotine, fort heureusement, nous n'utilisons plus la guillotine. Alors vous savez que c'est M. Badinter qui a fait en sorte que Mitterrand décide d'abolir la guillotine et que Mitterrand demande à tous les pays de l'Union européenne d'abolir la peine de mort. Et Badinter a fait ça parce que en France, il y avait un règlement absolument strict qui voulait qu'à chaque exécution d'un criminel, l'avocat général qui avait demandé la peine capitale, le juge qui avait prononcé la peine capitale, et l'avocat qui avait échoué à défendre le criminel, enfin en tout cas la personne condamnée, eh bien ces trois personnes étaient obligées d'assister à l'exécution. Et donc Badinter, en 1977, si je me souviens bien, assiste à une exécution par la guillotine. Or, quand on tranche la tête, eh bien le cœur continue à battre. Le cœur est un muscle extrêmement puissant qui pousse le sang jusqu'à un mètre de distance. On a quand même 5 litres de sang dans le corps. Donc une exécution à la guillotine, c'est absolument répugnant à voir parce qu'il y a tout ce sang qui gicle de partout. Donc ça a traumatisé Badinter et ça a eu donc cet excellent effet de supprimer la peine de mort. Et enfin,
tu sais peut-être qu'il y a eu un véritable débat parlementaire pour abolir la peine de mort, bien avant celle qui est intervenue en 1981, en 1908 ou 9, une année près. Et donc ça a eu pour effet, en tout cas, de suspendre les exécutions. C'était le fameux Debler qui était l'exécuteur des hautes œuvres en famille. Et donc pendant à peu près 2 années, il n'y a plus d'exécution. La loi n'était pas si loin de passer. Sur l'abolition, ce qui peut paraître surprenant en étant un peu reculé. Malheureusement, l'abolition n'a pas eu lieu. Et alors après, il y avait quand même des condamnés à mort qui s'étaient accumulés. Et donc, il a fallu que le fameux Debler et sa compagnie d'assistants s'activent pour réduire le surplus. Et donc, il y a eu une sorte de tournée. Et donc, dans les journaux de l'époque, on voit annoncer toutes les prochaines activités, parutions du cirque Debler qui vont un peu partout raccourcir tous les différents condamnés à mort. Donc, c'est un peu terrible. Et je précise ça aussi parce que c'est aussi la période à partir de laquelle on va cesser de faire les exécutions en place publique, et donc ça va se faire dans la cour des prisons, pour une simple et bonne raison que la photographie commence à être assez compétente techniquement.
Et justement, on ne veut pas que ce truc répugnant.
Voilà. Et donc on commence à faire des photographies qu'on peut faire de façon assez instantanée, et donc avoir des reproductions de ces exécutions. Et donc là, on n'a pas du tout envie. Donc on va cesser de faire ça sur la place publique, et ça va se faire dans les prisons.
Alors tu parles de Debler. Deux choses sur les bourreaux. Bien entendu, les bourreaux, ça on le sait, c'est des dynasties. Parce que qui veut être bourreau si ce n'est le fils du bourreau? Donc dans toute l'Europe, d'abord tous les bourreaux se connaissaient. Les familles des bourreaux, on se mariait. La fille du bourreau ne pouvait guère épouser que le fils du bourreau et réciproquement. Et donc sur les bourreaux, première chose... Quand la Révolution française décide justement d'utiliser la guillotine, il faut bien un bourreau. Il faut quand même bien quelqu'un qui va actionner le petit cliquet qui va faire tomber la lame. Et comme il n'y avait pas de bourreau disponible, on est allé chercher Samson, le bourreau qui a été utilisé par le roi de France. Mais Samson était en prison, parce qu'il était royaliste. Et donc pendant toute la Révolution, toutes les exécutions qui ont eu lieu à Paris ont été le fait... d'un bourreau royaliste qui en plus a écrit ses mémoires dans lequel il dit qu'il n'était pas content du tout de faire ça pour la Révolution, mais il n'avait pas le choix. Et c'était quand même un truc extraordinaire que chaque soir, après avoir exécuté, il y a eu certaines journées difficiles où il exécutait peut-être, 30 personnes, 40 personnes, il retournait en prison. Le bourreau retournait en prison, ce qui est quand même relativement savoureux.
Il était en liberté conditionnelle, quoi.
Il n'était pas en liberté, il était constamment entouré des forces de l'ordre. Et puis, autre chose sur le bourreau qu'on sait moins, souvenons-nous qu'il y a encore quelques années, heureusement que ça a disparu, il y a quelque chose qui s'appelait le service militaire. Mmh. Eh bien, les enfants du bourreau, les fils du bourreau, n'allaient jamais au service militaire. Il n'y avait pas de texte de loi qu'il disait, il n'y avait pas de règlement qu'il disait. C'était complètement oral et c'était inflexible. On savait évidemment qui était le bourreau, donc on savait qui était son fils. Alors le fils était bien appelé aux trois jours, hein, mais désolé, la commission recevait un petit mot. Le père de monsieur, des Blairs, mettons le nom après, et à ce moment-là, c'était curieux, il avait toujours un petit problème physique qui faisait qu'on ne pouvait pas l'employer comme bourreau. Et puis, dernière chose sur la guillotine, il y a quelques années, le musée d'Orsay avait fait une exposition qui s'appelait « Crime et châtiment ». Il était donc logique d'y présenter la guillotine. Alors, le commissaire de l'exposition demande à monsieur le directeur du musée d'Orsay, monsieur le ministre de la Justice dit à son chef de cabinet, « Mais bien entendu, monsieur le chef de cabinet, procurez-lui la guillotine, s'il vous plaît. Monsieur le chef de cabinet appelle le sous-chef de cabinet. Monsieur le sous-chef de cabinet, s'il vous plaît, procurez-leur la guillotine. Monsieur le sous-chef de cabinet appelle... » Et puis là, il dit, « Mais elle est où, la guillotine ?» Alors, ils se disent, « Bon, ben, on va demander à toutes les prisons. Mmh. » Et toutes les prisons de France, de Navarre et d'Outre-mer leur répondent, « On n'a pas de guillotine. » Ah, problème. On demande aux tribunaux. Les tribunaux n'ont pas de guillotine. On demande à tous les postes de police de France, de Navarre et d'Outre-mer. Aucun poste de police de France, de Navarre et d'Outre-mer n'avait de guillotine. Et c'est complètement par hasard qu'un soldat farfouillant dans une caserne à la recherche d'on ne sait quoi ouvre une drôle de caisse et reconnaît dans la caisse la forme biseautée du couperet de la guillotine. Et c'est donc ainsi qu'on a pu récupérer la guillotine et la montrer à cette exposition « Crime et châtiment ». Alors je l'ai vue, c'est très décevant. C'est très décevant, c'est exactement comme la Bastille. La Bastille, on croit toujours qu'elle est énorme, qu'elle est gigantesque. Et en réalité, c'était un bâtiment qui n'était pas plus élevé que, par exemple, un immeuble haussmannien. Eh bien, la guillotine, c'est pareil. C'est un objet qui n'est pas très grand. Alors, bien entendu, les montants font quasiment 2 mètres de haut. Vous aviez donc ce très lourd couperet, au-dessus duquel on posait quelque chose qu'on appelait un mouton, qui était une pierre très très lourde, ou un bloc de plomb, pour être sûr que le poids, plus la distance des 2 mètres, allait très certainement vous couper la tête. Mais donc c'est un objet moins impressionnant que ce que l'on a pu croire. Il y a un autre objet, il y a plusieurs objets homicides dans ce musée. L'un d'entre eux, c'est une réplique très précise de la machine infernale de Fieschi. Alors souvenez-vous, Fieschi, c'était ce Corse qui avait voulu assassiner Louis-Philippe. Louis-Philippe a échappé à, je crois, 18 tentatives d'assassinat. Enfin, il a eu une veine de pendu pendant tout son règne, malheureusement. Et cette machine infernale, qu'est-ce que c'était ? C'était presque 30, un peu moins de 30 canons de fusil placés sur une espèce de rack et qui tirait donc en même temps. C'est une espèce de mitrailleuse avant la lettre. Fieschi avait fait un travail absolument parfait. Il avait complètement calculé la trajectoire, l'angle. Louis-Philippe ne pouvait pas en réchapper. Il tire sur Louis-Philippe au moment où Louis-Philippe est bien dans l'axe. Il tue des gens autour de Louis-Philippe. Bon Dieu de Louis-Philippe, désolé, il n'a pas une égratignure, c'est comme De Gaulle ou Petit Clamart, une veine de pendu, et donc on voit cette étrange machine. Et puis, il y a une vitrine à la fois drôle et terrifiante, avec une série d'objets, de pièces à conviction, donc d'armes qui ont été utilisées dans divers meurtres. Alors par exemple, il y a un faux éventail. C'est un truc japonais, c'est pas un éventail du tout, ça cache un poignard. Bien entendu, on voit des couteaux en abondance, des coups de poing américains. Et puis on voit un drôle d'objet qui est une espèce de boule en fonte, à peu près de la taille d'une grosse orange, avec un manche en fonte. Et on comprend bien qu'un coup sur la tête avec un objet comme ça, vous mourrez. Mais on se demande, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Eh bien, ce sont ces espèces de tiges que l'on met entre deux wagons, et avec au-dessus cette grosse boule en fonte très lourde pour que les soubresauts de la voix ne fasse pas sortir cette tige qui permet de bien relier deux wagons. Et Nicolas.
Oui, il y avait. Alors, tu as évoqué effectivement un certain nombre d'objets qui ont servi à commettre des crimes, voilà, d'outils divers. Il y en a un tout particulier qui est une sorte de quelque chose qui se mettait au poignet, qui était destiné à se mettre au poignet.
Nicolas a des lectures. Je vous préviens, Nicolas.
De pique. Jean-Renel sera peut-être plus précis dans la description. Il se trouve que ce personnage, qui s'appelle Liabeuf, a lui aussi eu le personnage qui a confectionné cet objet, s'appelait Liabeuf, j'oublie son prénom à l'instant. Et a lui aussi eu à subir la guillotine, mais pour une raison
un peu différente. Alors, Liabeuf, c'est un cordonnier.
D'abord,
un apprenti cordonnier, puis un ouvrier cordonnier. Et il est amoureux d'une prostituée, et ça se passe très mal. On l'accuse de tas de choses.
On l'accuse de proxénétisme.
Alors qu'il est tout simplement amoureux. Ça lui déplaît beaucoup. Et
il va être condamné pour ça.
Exactement. Et donc, il veut se venger de la police. Et comme il est cordonnier, il invente effectivement un drôle d'objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est un manchon de cuir qu'il se passe sur l'avant-bras. Donc, c'est un manchon qui entoure tout son avant-bras. Mais dans ce manchon, eh bien, il plante quasiment une centaine de clous très fins et très résistants. Mais attention, il les plante de façon à ce que la pointe, bien entendu, ne pique pas son bras à lui.
Soit vers l'extérieur.
Mais elle est vers l'extérieur. Parce qu'il sait que le premier réflexe d'un agent de police, devant quelqu'un qui le menace, c'est d'essayer de saisir le bras de la personne. Et donc, il va cacher ce manchon clouté sous une manche avec un tissu extrêmement fin. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Un jour, il va aller faire des choses très désagréables à un agent de police. L'agent de police va essayer de le saisir par le bras. Et évidemment, ça va lui faire très mal. Eh bien, le bon Liabeuf, pour ça, on va le condamner à mort. Donc voilà, c'est l'objet n'est pas une réplique, c'est bien le manchon de Liabeuf. L'objet le plus drôle, alors là il est vraiment drôle, l'objet le plus drôle de tout le musée, c'est un rapport de police, donc on a qui est affiché sur un mur, un rapport de police qui concerne deux individus scandaleux. Scandaleux parce que Nicolas, oserais-je le dire, homosexuel.
Ceci ne nous...
Ne nous regarde plus.
Mais... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu j'allais dire introduis, une notion, c'est-à-dire que la police s'occupe des crimes, mais la police s'occupe aussi des mœurs.
Exactement. Et bien entendu...
Et en l'occurrence, ces deux messieurs, fort grands poètes,
très
par ailleurs,
grand poète, étaient,
semblaient avoir des mœurs réprouvées par la police d'Alain.
Alors, ça ne semblait pas du tout. Le rapport de police est formel, et d'ailleurs, nos deux grands poètes, selon le rapport de police, on le sait de toute façon, ne se sont pas cachés d'avoir eu une passion homosexuelle, enfin, en tout cas bisexuelle plus précisément, l'un pour l'autre. Et vous avez sans doute reconnu Verlaine et Rimbaud. Et excusez-nous, mais le texte du rapport de police, donc nous l'avons enregistré dans le musée, donc le son va être franchement bizarroïde, mais c'est un tel joyau de prose policière qu'il faut le conserver tel quel.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de grands poètes, mais le fonctionnaire de police qui a rédigé son rapport dispose d'un certain talent
littéraire,
on pourrait dire. Donc on va écouter Jean-Manuel nous lire ce texte.
Thank you.
principal, brigade des recherches. Monsieur Lombard, rapport officier de paix. Sommaire, renseignement concernant le nommé Verlaine. En réponse à la note ci-jointe, j'ai l'honneur de transmettre à monsieur le préfet de police des renseignements qui me parviennent sur le compte du nommé Verlaine qui en fait l'objet. La scène se passe à Bruxelles. Le Parnassien Robert Verlaine était marié depuis 3 ou 4 mois à la sœur de Sivry, un compositeur pianiste qui a été emprisonné à Satory après la Commune, pontonné puis relaxé. Ce mariage s'était opéré au commencement ou au milieu de l'année dernière. Le ménage allait assez bien en dépit des toccades insensées de Verlaine, dont le cerveau est depuis longtemps détraqué, lorsque le malheur amena à Paris un gamin, Rimbaud, originaire de Charleville, qui vint tout seul présenter ses œuvres aux Parnassiens. Comme morale et comme talent, ce Rimbaud âgé de 15 à 16 ans était et est une monstruosité. Il a la mécanique des vers comme personne, seulement ses œuvres sont absolument inintelligibles et repoussantes. Verlaine devint amoureux de Rimbaud, qui partagea sa flamme, et ils allèrent goûter en Belgique la paix du cœur et ce qui s'ensuit. Verlaine avait lâché sa femme avec une gaieté de cœur sans exemple, et pourtant elle est, dit-on, très aimable et bien élevée. On a vu les deux amants à Bruxelles pratiquer ouvertement leurs amours. Il y a quelque temps, Madame Verlaine alla trouver son mari pour essayer de le ramener. Verlaine répondit qu'il était trop tard, qu'un rapprochement était impossible, et que d'ailleurs, il ne s'appartenait plus. « La vie du ménage m'est odieuse !» s'écriait-il. « Nous avons des amours de tigre !» Et ce disant, il montra à sa femme sa poitrine tatouée et meurtrie de coups de couteau que lui avait appliqué son ami Rimbaud. Ces deux êtres se battaient et se déchiraient comme des bêtes féroces pour avoir le plaisir de se raccommoder. Madame Verlaine, découragée, revint à Paris. Madame Verlaine, mère, qui adore son fils, voulut à son tour essayer de ramener Robert au sens des convenances, et c'est à ce propos que s'est passée la scène qui a mis Bruxelles en émoi. Devant sa mère, il y a une semaine ou 15 jours au plus, Verlaine eut avec son ami Rimbaud une dispute à propos d'argent et, après toutes les injures imaginables, tira un coup de pistolet sur Rimbaud, qui cria « À l'assassin !» La mère de Verlaine, ne sachant qu'elle était l'auteur de la tentative de meurtre, cria aussi à l'assassin. Et Verlaine fut arrêté et enfoui à la prison des Carmes, où il attend son jugement. De sa prison, Verlaine a écrit à Victor Hugo pour le prier d'intercéder pour lui et pour expliquer son amour pour son ami. Victor Hugo n'a pas répondu et a expédié la lettre à la femme de Robert Verlaine. Les faits sont exacts, informez-vous-en à Bruxelles. Peut-être est-ce Rimbaud qui a tiré le coup de pistolet à Verlaine, car je n'ai pu savoir au juste l'auteur du revolver en jeu. Cependant, je crois ma version bonne pour la fixation du personnage. La question de l'individualité de l'assassin réservée, tout le reste est parfaitement vrai. Je transmettrai ultérieurement les autres renseignements qui doivent me parvenir sur cette affaire. Officier de paix, Lombard.
espérons que cette lecture vous a enthousiasmé et vous êtes bien dans
L'ému s'amuse
sur Radio Libertaire
89.4,
la radio
de la Fédération anarchiste,
sans Dieu,
sans maître,
ni publicité,
mais avec un peu de police ce soir. Puisque nous sommes donc toujours dans le musée de la police, enfin dans le musée de la police, on y est allé, puis ensuite on a refait notre enregistrement, et nous venons donc de parler de l'objet le plus drôle, ce rapport de police sur les amours de tigre, de Verlaine et de Rimbaud.
Et alors, puisqu'on parle des objets, on a un peu cette image alors qui est un peu ancienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'image du policier, il est un peu chargé d'armes, de gilets pare-balles, de choses comme ça. Mais dans des temps plus anciens, on parlait de gardien de la paix. Et pourrais-tu nous dire quelles étaient les armes de ce honorable gardien de la paix ?
Le gardien de la paix, bien entendu, avait quand même une arme à feu, mais il avait également une matraque. Seulement, la matraque a un léger défaut. La nuit, elle n'est pas vraiment visible. Or, l'un des rôles des gardiens de la paix dans une ville comme Paris, c'est de réguler le trafic automobile, qui tout d'un coup va beaucoup plus vite que les anciennes voitures hippomobiles et non pas automobiles. Et c'est là qu'un préfet de police créatif, celui-là même qui a eu l'idée du musée, Monsieur Louis Lépine a une idée de génie, car voyant l'arrivée de l'électricité, il va inventer le bâton blanc, qui va très vite devenir le bâton lumineux, et qui va donc permettre aux gardiens de la paix de souligner leurs gestes, de rendre leurs gestes visibles de loin, donc par des voitures qui arrivent vite, et d'être visibles même la nuit, puisque le bâton va être éclairé. Et effectivement, en cas de problème, eh bien, le gardien de la paix peut s'en servir comme d'une petite matraque. Mais je sais fort bien, je sens ce que tu voulais, ce dont je parle, c'est que c'est pas tant le bâton qui t'intéresse que la cape.
Effectivement, la cape, c'est très... On se souvient un peu comme dans Tintin, comme ça, on voit les policiers képi avec le bâton blanc, et puis ils ont une sorte de houppelan, de grande cape comme
voilà,
ça.
De cape noire, qui était très pratique, puisque les gardiens de la paix étaient censés rester dehors quel que soit le temps, donc il leur fallait quelque chose d'à la fois imperméable, qui bloque le vent, qui soit bien pratique. Mais il y a un secret.
Oui, ces capes avaient une petite particularité.
Petite particularité très désagréable. Car d'un côté, est-ce que au départ ça a été une idée du tailleur ou est-ce que ça a été une idée strictement policière, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on peut imaginer que le tailleur se disait, mais comment conserver à ces capes de policiers un tombé bien net, bien longiligne ?
Parce que ces capes ne volaient pas au vent.
Exactement, c'était tout simplement qu'elles étaient lestées. Oui, mais comment lester une cape avec ce qui est le plus lourd dans l'espace le plus réduit, avec du plomb. Ah, mais le plomb, c'est du métal. Et donc, le bas, les franges des capes étaient lestées de plomb. Et donc, de temps en temps, si un gardien de la paix perdait sa matraque, eh bien, il lui suffisait d'enlever sa cape, d'en enrouler le haut autour de son bras et de se servir du bas comme d'une deuxième matraque, éventuellement nettement plus désagréable que la première. Donc, c'est là un objet qui fait à la fois sourire et pas sourire quand on se souvient de son usage.
Certains en ont perdu le sourire même.
Certains en ont perdu le sourire, voire définitivement, dans un grand nombre de cas. Alors, il y a beaucoup d'autres objets, évidemment, dans ce musée de la police. En particulier, on a des instruments de mesure anthropométrique. Alors, je rappelle que mètre en grec, ça veut dire mesure. Anthropos, c'est l'homme.
C'est l'homme.
Donc, l'anthropométrie, c'est la mesure de l'homme. Car la police, avec l'explosion démographique, a un problème. Comment reconnaître les gens ? Et puis, comme chacun sait, les témoignages sont notoirement peu fiables. Tout le monde n'est pas physionomiste, tout le monde ne sait pas donner un portrait robot comme on peut en donner maintenant. Et donc, quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bertillon, qui n'avait strictement rien à voir avec l'auguste famille de glaciers de l'île Saint-Louis, Monsieur Bertillon se dit que comment faire pour reconnaître les individus à coup sûr. Parce qu'en plus, il y a encore un autre truc, c'est que vous dites, voilà, le criminel était blond. Et il manque de chance, après le crime, il se teint les cheveux bien noirs. Ou bien vous dites, le criminel avait un nez crochu. Ah oui, manque de chance.
Ça arrive.
Voilà. Ou l'inverse, il avait un nez très droit. Eh ben, le criminel peut éventuellement aller voir un boxeur et dire que franchement, il faut que je me déguise. Franchement, bien. Donc, il y a des choses qui changent. Oui, mais il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Puis il y a des choses auxquelles on ne pense pas qu'elles vont changer. Par exemple, la longueur des oreilles. Plus exactement, la hauteur des oreilles. Du haut en bas. La distance entre le haut du crâne et le bout du nez. La distance entre le haut du crâne et le menton. La distance, enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça, il y en a au moins une quarantaine, que Monsieur Bertillon a répertorié. Et donc, c'est le premier système d'anthropométrie. On fait subir à tous les suspects toute une série de mesures et on peut comme ça savoir qui est qui. Et puis, Monsieur Bertillon va populariser une autre trouvaille, les empreintes digitales. Alors, il est faux de dire que les empreintes digitales sont uniques. Elles ne sont pas uniques. Mais la probabilité pour que deux individus aient les mêmes empreintes digitales, c'est un truc de fou. Ça doit être un truc du genre 1 sur 100 millions ou 1 sur 1 milliard. Donc c'est presque comme si les empreintes digitales étaient absolument uniques. Alors, ce ne sont pas les seuls objets fascinants disposés dans ce musée de la police. On trouve également des lettres d'amour et des photos des jeunes femmes qui sont allées voir un monsieur portant bien, avec une belle barbe, quoique une calvitie, mais une belle barbe. Oui. Et puis un homme élégant, un homme bien habillé. Et un homme qui promettait le mariage. Hein, le mariage, c'est fascinant comme perspective.
Un homme qui a été interprété au cinéma par Charles Denner.
Tout à fait. On sent, Nicolas, que tu as des lettres. Et des lettres. Que tu as des images plutôt que des lettres. Et bien entendu, nous parlons de Landru.
De Landru.
Alors, Nicolas, est-ce que tu te souviens de l'élément du témoignage qui a permis d'emporter la conviction de Landru, qui a fait en sorte que Landru, tout le monde a compris que c'était bien lui le tueur?
Alors non, je ne me souviens pas de cet élément.
Alors, tu seras puni, mais je vous le raconte quand même. L'élément qui a emporté la conviction finale, c'est que Landru donc séduisait des jeunes femmes, les convainquait à un moment ou à un autre de venir le voir dans sa maison en banlieue pour mettre en sûreté leurs économies, leurs bijoux, leurs livrets de caisse d'épargne, etc. Donc c'était des Parisiennes et les emmenaient en banlieue, par le train. Eh bien, au lieu d'acheter 4 tickets au guichet, 2 allers-retours, il achetait un aller-retour pour lui et un aller simple pour sa victime. Et l'employé du guichet auquel il s'adressait régulièrement l'a reconnu et a dit « Oui, c'était quelque chose, je me disais, mais pourquoi diable, à chaque fois une demoiselle différente et à chaque fois un aller-retour et un aller simple. » Et donc ceci a permis de comprendre que c'était bien Landru, l'abominable criminel. Alors il y a eu encore plus abominable que Landru, et il y a un objet, alors lui, qui est absolument tragique et horrible, mais c'est malheureusement, c'est une bonne chose que de le montrer, c'est un objet qui a appartenu au docteur
Petiot,
l'affreux docteur Petiot, donc un vrai docteur en médecine, hein, qui a prêté le serment d'Hippocrate de ne jamais nuire. Eh bien, le docteur Petiot, qui était déjà avant la guerre un escroc fini, le musée de la police montre effectivement la plaque qui avait dans la rue et qui disait que le docteur Petiot était un spécialiste de tous les rayons X, les radiographies, qu'il allait tout guérir à coup de rayons. Eh bien, quand l'occupation arrive, Petiot a un coup de génie. Il se rend compte que, vu la politique antisémite spontanée du gouvernement de Vichy, je rappelle que le gouvernement de Vichy n'a pas attendu Hitler pour créer le fameux secrétariat aux questions juives, le docteur Petiot comprend que un bon nombre de juifs français vont vouloir fuir à n'importe quel prix. Il a également entendu parler des réseaux de résistance. Et il sait également qu'il y a des réseaux de résistance qui se sont organisés pour tenter d'aider les juifs, justement, à fuir. Alors il a une idée de génie. Il prétend, auprès de nombreux juifs affolés, qu'il est membre d'un réseau de résistance qui va les emmener en Angleterre. Alors, tout comme Landru, il dit, bon, écoutez, n'arrivez pas avec des valises, mais vendez tout, achetez de l'or et des diamants, et venez à mon cabinet samedi, 22h, avec juste ce qu'il vous faut pour passer en Angleterre, mais surtout, surtout, pas de gros bagages. Et là, c'était horrible. Qu'est-ce qu'il faisait, ce salopard ? Il avait construit une chambre à gaz. Une chambre à gaz. Bon. Et là où c'est encore plus horrible, vous savez peut-être comme moi que dans les chambres à gaz des camps de concentration, il y avait un œilleton pour que le SS qui avait débouché la capsule de Zyklon B, eh bien, il était ensuite censé regarder ce qui se passait, et quand il estimait que tout le monde était mort, c'est là qu'il donnait le signal aux malheureux du Sonderkommando d'ouvrir les portes de la chambre à gaz et d'évacuer les cadavres. Et donc, le docteur Petiot, lui aussi, apparemment indépendamment, avait eu cette idée atroce de l'œilleton pour regarder dans sa chambre à gaz à lui, pour être sûr que sa victime était morte. Et c'est cet œilleton qui est disposé dans une vitrine du musée de la police. Alors, c'est l'un des deux objets les plus horribles du musée. Et le deuxième objet horrible, là, c'est un objet qui résume ce que je disais tout au début de l'émission, que ce musée de la police est intéressant autant par ce qu'il montre que ce parce qu'il n'ose pas montrer. C'est très simple. Nous savons tous que, sous l'occupation, quand Pétain déclare que les Juifs doivent se faire enregistrer, 145 000 Juifs présents sur le territoire français commettent l'erreur de se faire enregistrer. Heureusement, il y a eu ceux intelligents qui ne se sont pas fait enregistrer. Évidemment, certains se sont fait malheureusement arrêter, mais d'autres ont survécu quand même. En tout cas, pour les 145 000 qui se sont fait enregistrer, les chiffres sont très clairs. Il y a, si je ne m'abuse, 76 000 de ces Juifs qui vont être envoyés dans les camps de concentration. Seulement 3 000 vont revenir en vie. Donc 73 000 Juifs au moins assassinés dans les camps de concentration, mais l'intégralité de ces Juifs, français ou présents sur le territoire français, ont été arrêtés par la police française et non pas par les SS. Alors, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que ça veut aussi dire, sur 145 000, qu'il y en a à peu près 75 000 de l'autre côté, un peu plus de 75 000, qui n'ont pas été arrêtés par la police française. Alors, s'ils n'ont pas été arrêtés par la police française, la raison principale dans la plupart des cas est qu'ils se sont cachés, ils ont été sauvés par des non-juifs d'une manière ou d'une autre auparavant. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a eu des cas où des policiers dotés de cet objet bizarre qu'on appelle une conscience. C'est un objet un petit peu difficile à trouver.
De l'éthique.
De l'éthique, oui, de l'éthique. Pas en toc, de l'éthique, hein, de l'éthique. Et on peut imaginer que des policiers sont allés voir les gens qu'ils devaient aller rafler le lendemain en leur disant, écoutez, demain matin à 5h du matin, vous n'êtes pas dans votre appartement. Monsieur Lévy, là, c'est l'étage au-dessus ou l'étage en dessous, mais pas chez vous. Mais ça veut aussi dire que donc, eh bien, des policiers français sont allés arrêter des Juifs, tout à fait en connaissance de cause. Il serait absurde de prétendre croire qu'ils ignoraient que les Juifs allaient à leur mort. Et ça, bien entendu, le musée de la police, c'est curieux.
Oui, c'est ça, je te sentais venir, j'avais la sensation que tu allais nous dire que cet aspect de l'histoire de la police parisienne et française en général est peu évoqué dans le musée de la police.
Le rôle exact des policiers n'est pas du tout évoqué. Alors, quand même, il y a un petit reste d'honnêteté qui fait que, vraiment, ils montrent des objets absolument répugnants, comme ces livres qui s'appelaient « Comment reconnaître un juif ». Donc, quand même, ils disent bien qu'il y a une attitude du gouvernement de Vichy qui est une attitude abominable. Mais c'est curieux, ils sautent sur le fait que la police a obéi au gouvernement de Vichy. Alors, incidemment, sur cet affreux livre...
Il y a beaucoup de gens qui ont obéi aux ordres pendant cette période.
Ah, c'est curieux. Il y a eu beaucoup d'obéissance pendant la Seconde Guerre mondiale, tout à fait. Et juste une petite anecdote personnelle sur ce livre abominable, Comment reconnaître les Juifs. Ma tante à moi, qui était très gentille, elle était adorable, ma tante, je l'aimais beaucoup. Mais ma tante à moi, elle était un peu beaucoup pétainiste sur les bords dans sa jeunesse. Mais aussi tard qu'en 1985, en plein dîner de famille... Et nous étions une famille plutôt à gauche, très athée, elle était la seule croyante. Tout d'un coup, elle dit, mais comme ça, mais en sortant de nulle part, vous savez comment on reconnaît un juif ? Alors, silence glacial dans la famille. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Et elle dit, ils ont les fesses plus basses que les autres. Aïe, aïe, aïe ! Et avec beaucoup de charité, ma maman a changé le sujet de la conversation. Et mais ma tante a mis une bonne minute à comprendre, mais uniquement à cause de notre réaction, de notre silence absolument stupéfait, qu'elle avait là, elle avait dit là quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment stupide. Enfin, toujours est-il que le deuxième objet le plus horrible de ce musée de la police, eh bien, c'est tout simplement un poteau d'exécution que l'on a retiré d'un stand de tir, justement un stand de tir de la préfecture de police à Issy-les-Moulineaux. Et ce poteau d'exécution, eh bien, ce qu'il y a d'affreux, c'est qu'au lieu d'être un beau tronc d'arbre bien circulaire, eh bien, il est complètement déchiqueté par des impacts de balles. Et déchiqueté à un point où on se rend bien compte que fatalement, il n'a pas servi à une exécution, mais à quelques dizaines d'exécutions. Alors, c'est presque le dernier objet que l'on voit dans le parcours du musée de la police, et quand même, comme nous sommes sur Radio Libertaire, allez, on va quand même leur reconnaître ce petit bout d'honnêteté, l'un des derniers objets qu'on voit dans le musée de la police, c'est un poster de mai 68. Elle est pas belle, la vie !
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Jean-Manuel m'a enfin enlevé les menottes. Nous sommes sortis du musée de la police, du côté de la place Maubert.
Effectivement, voilà, nous étions donc au commissariat central du 5e arrondissement, au 3e étage de ce bâtiment, dans le musée de la police, dont je tiens à remercier le personnel, qui est toujours d'une grande amabilité, même si ce personnel ne s'est absolument pas rendu compte que nous étions deux affreux agents infiltrés de Radio Libertaire et que nous avons fait cette émission des Muses s'amusent. Et bien entendu, c'est tous les premiers lundis du mois que vous pouvez entendre les Muses s'amusent. Et vous aurez remarqué, j'espère, que c'est avec un certain sens de l'autodérision que nous avons choisi ce thème du musée de la police pour une émission qui ouvre 2024, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024. Donc, bonne année non policière.
Bonne année à tous et sans police.
Si belle colline, se reflète sur mon corps, chaude s'est mise.
devant l'aurore. Mais tes lèvres, si belles collines, se reflètent sur mon cœur.
Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Costi, Costi, qu'on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up, et hop, on y gagnerait son temps et son argent, tout en n'y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples en revirant ton pick-up. Et hop, sans avoir à causer à ces pépés qui font pitié. Car le temps des pin-up passera et puis hop, puis hop, puis hop, ces pin-up que l'on pique et hop. Et hop, sur les murs des maisons, des cons, des cons. si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, regard, regard, on ne perdrait pas son temps de temps en temps, tout en y gagnant de quoi se faire bien de la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire. Revoir, revoir, et que les salons cossus, dodus, connus, où l'on se file les potins et le popotin, car le temps des fanfares, ça s'en va d'arredard. Redard, on y voit des acadés, mi-quoi, crever comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique et puis hop, on serait peinard. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.
Chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Fille, sois fière d'avoir une fille, toi que je ne connais pas et qui a mal à l'hôpital. Fille, fille, ton mari dit nous l'appellerons Alexandre ou Napoléon, tu t'en fous, tu l'appelleras fille. toute la chaleur du monde, toute la douceur du monde, comment pourrais-tu les regretter? Fille, ta fille, il faudra 100 fois plus l'aimer. Elle a des siècles à rattraper. Lui dire qu'elle n'est pas une moitié d'homme. Mais quelqu'un d'entier, de plein. Fille, fille, prends ton pinceau, prends ta palette, prends ton piano, prends ta trompette, dis-nous comment tu vois le monde. Fille, fille, prends notre vieux livre des lois, dis-nous comment tu ferais, toi, pour que la justice l'inonde. Les temps sont venus, la terre s'ouvre à toi, salut fille, dépouille ton masque peinture lurée. Fille, ma fille, ce masque nous te l'avions mis pour jouer aux mille et une nuits, rassurer nos petites âmes, pardon madame. On paiera pour tout cela. Fille, fille, sois fière d'avoir une fille, toi que je ne connais pas, mais qui a mal à l'hôpital. Fille, fille, ton mari dit, nous l'appellerons Alexandre ou Napoléon, tu t'en fous, tu l'appelleras fille. Fille, fille.
Sac de plumes, sac de plumes. Il a tombé moineau, tombé sans parachute. Il a tombé sur le dos d'un clébard, d'une vraie brute, d'une vraie brute. Pardon monsieur, excuse me, dit le piaf en tremblant. J'ai dérapé du nid, j'ai paumé ma maman. Le mono sa grenier, ma cabane est en face. Je te prête un oreiller si tu prends pas trop de place, pas trop de place. Ici c'est comme chez toi, tu y seras au vert. Les chasseurs et les chats, ça j'en fais mon affaire, mon affaire. Et moi Noé resté au sol en sautillant. Un hiver, un été à l'hôtel, chien méchant, chien méchant. Bientôt je serai prêt, cuit-cuit, le moineau. Je voudrais bien t'emporter, mais là-haut c'est trop haut. Et le croc blanc de banlieue, un regard dans la lune, contemplait l'arme aux yeux, l'oiseau lisse et ses plumes, ses plumes. Voix de pinson, plus m'a dit faut que je parte. Il a parti moineau, un petit bec au molosse. Promis, je reviens bientôt pour te confier mes gosses, mes gosses. Moineau, un petit bec au molosse. Promis, je reviens bientôt pour te confier mes gosses, mes gosses.
blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme un boulet de canon semait la fureur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, lui dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais ses mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine, du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. On crut de locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto, mais plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
Ces gens-là dans le boîte vont tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous faits de tiki-taki. Ils sont tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons font du commerce et deviennent pères de famille. Ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, tout pareil. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en tiki-taki qui sont toutes pareilles.
Radio Libertaire 89.4.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type papa, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier tressé de chanvrillette et un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société.
Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard. La graine d'âne. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut